Une vie, une œuvre, Éric Satie, Honfleur, 1866, Paris, 1925. Alfred Éric Leslie Satie passe les 6 premières années de sa vie avec un père, courtier maritime, et une mère d'origine écossaise. Au décès de celle-ci, il est confié à ses grands-parents avant de rejoindre son père à Paris. Il a un frère, Conrad, et une grande sœur, Olga, pianiste. Il entre au Conservatoire de Paris et à 20 ans compose Ogive, puis les 3 gymnopédies 2 ans plus tard. Sa vie croise le sarpe et la danse qui inspire les sonneries de la Rose-Croix et les danses gothiques. Pianiste dans des cabarets de Montmartre, il compose notamment un petit opéra pour marionnettes en 3 actes, durant chacun moins de 5 minutes. En 1905, il entre à la Schola Cantorum, plus tard se lie à Diaghilev, Picasso, Cocteau. En 1917, il écrit la musique de Parade, puis Socrate. La vie de cet amateur d'absinthe se termine dans un grand dénuement. Françoise Estève signe avec Lionel Quentin « Une vie, une œuvre », Éric Satie.
Il n'y a pas de vérité en art. C'est quand même la grande affirmation de Satie dans sa vie, c'est de dire « Je vous propose un art aux vérités multiples ». Rien de plus déstabilisant. C'est un coup d'État.
Satie, c'est simplement un type libre. Et c'est pour ça qu'il est insoutenable.
Satie déambulait dans Paris, coiffé d'un chapeau melon.
Robert Caby.
Les pouces croisés et la main droite sur la main gauche, portant sous le bras l'inoubliable parapluie et parfois une énigmatique serviette de cuir. Il avait le sourcil gauche relevé extérieurement, signe d'un esprit toujours aux aguets. Et il avait le regard d'une surprenante clarté derrière les binocles, un regard d'une acuité étonnante. Vous savez, ce regard fixé on ne sait quel au-delà des hommes et des objets de la rue.
Henri Sauguet.
Il avait l'air d'un monsieur veuf qui a perdu sa femme il y a quelques années, qui promène un chagrin doux et triste dans les rues de Paris, mais tout en étant très courtois, il était extrêmement susceptible, irascible, quelquefois même. Mais surtout, il était le type, je vous dis même, de l'homme non-conformiste et auprès desquels toutes les choses pouvaient arriver.
La musique de Satie rompt de manière très radicale avec l'ensemble de la musique de son temps, de la musique du 19e siècle, disons, au moment où Satie commence à composer, au milieu des années 1880.
Gilbert Delors.
Et c'est une rupture vraiment très nette, très, très prononcée et très, très consciente, très volontaire, manifestement. Tandis que la musique depuis au moins Beethoven et certainement même depuis toujours se déploie dans des humeurs variées. Eh bien, Satie, dès ses premières compositions, fait preuve d'une équanimité systématique, une sorte de calme comme ça, un peu rêveur, avec les gymnopédies, avec les ogives, avec les sarabandes, qui sont des pièces toutes plus ou moins de la même époque, de la fin des années 1880.
Les gnossiennes.
Les gnossiennes. C'est-à-dire que sa musique est résolument calme et toujours calme.
Quelle était la modernité musicale à son époque ?
À l'époque où Satie commence à composer, la modernité musicale, c'est surtout Wagner.
Il parlait souvent de musique sans choucroute. Du coup, c'est ce qu'il reprochait souvent à Debussy, une musique trop influencée par les excès de la musique allemande du passé.
Mais Satie, c'est encore autre chose. Enfin, c'est une musique de retenue, dotée d'une certaine sécheresse, d'un certain formalisme comme ça, et qui va à l'encontre de l'expressivité exacerbé que tout le romantisme a développé.
Mmh. Prélude flasque pour un chien. Descriptions automatiques. Embryon desséché. Croquis et agacerie d'un gros bonhomme en bois. Chapitre tourné en tous sens. Vieux sequin et vieille cuirasse. Sonatine bureaucratique. Peccadille importune. Heure séculaire et instantanée. Les trois valses distinguées du précieux dégoûté. Espagnania. Sonnerie pour réveiller le bon gros roi des singes, lequel ne dort toujours que d'un œil.
Elios Azoulay.
Déjà, je crois qu'il faut l'approcher avec le respect qu'on doit à un homme pudique et avec le respect qu'on doit à un homme drôle. C'est curieux de dire ça, parce que je crois que Satie, il est d'autant plus pur et d'autant plus sacré qu'il porte les habits à certains moments du clown. Et malheureusement, je crois qu'il y a dans l'humour, chez beaucoup de gens, et notamment chez Satie, le sacrifice par l'humour. Un homme qui décide de vous faire rire, c'est un homme qui est sûr de se mettre à dos la moitié de la postérité. Satie a décidé d'entrer dans la musique par le biais de la provocation, c'est-à-dire en se séparant de la moitié du monde, qui va dire « c'est un provocateur », et d'entrer aussi dans l'histoire de la musique par le rire, l'éclat et parfois même le burlesque le plus délirant pour les œuvres comme Entracte, vous voyez, Relâche, etc., etc. Rares sont les gens qui considèrent les gens drôles autrement que comme risibles. Et puis vous avez l'humour, c'est marrant, parce que moi je me suis toujours posé la question, mais quand on rit et qu'on montre ses dents, on montre une partie de son squelette. C'est, le rire, c'est le seul moment de l'existence où vous montrez une partie de votre squelette, donc de la mort.
Les critiques me représentent comme étant drôle, c'est pas vrai. Je suis pas drôle, ni ne désire l'être. Je suis un triste, un mélancolique, un pleureur, comme le saule. Ce qui est bien assez bon pour moi, le saule.
Romaric Gergorin.
En fait, la vie de Satie est la vie d'un sacrifié. C'est sacrifié... En tant qu'individu, dès le départ, en fait, il a perdu sa mère très, très jeune.
À 6 ans.
Après, sa grand-mère meurt dans des circonstances inexpliquées en 1872. On la retrouve morte, noyée sur la plage de Honfleur. Et très tôt, il est rentré en lui-même. Et il y a eu des contradictions, des choses qui sont très mal passées dans son enfance. Et il a épousé une espèce de logique masochiste. Il est descendu petit à petit dans les bas-fonds un peu de la société, alors qu'il venait d'une famille bourgeoise. Sa vie n'est qu'une longue autodestruction, et sa vie personnelle est quand même assez dure, assez, on va dire, presque inexistante. Tout est dans la destruction, en fait. Sa vie, c'est une forme de consommation. Il se consume, mais en même temps, il se sauve, il s'exauce par l'écriture de sa musique.
Jean-Pierre Armengaud.
C'est peut-être ça une des clés, Satie, c'est l'hypersensibilité. Bon, parce qu'il était hypersensible, il se cachait, il fuyait, il mentait, mais pour dire une vérité peut-être un peu plus profonde, et en pensant que, de toute façon, dire sa vérité n'aurait pas été comprise.
Satie en vareuse de pauvres, Satie en tenue ecclésiastique, Satie en costume de velours moutarde porté pendant 7 années d'affilée, Satie caricature du bourgeois. Alors Satie change de look comme et quand il change d'écriture musicale. Alors pour vous, Léopold Tobisch, Satie avance masqué?
Satie, oui, je dirais, il avance masqué et surtout, il change de masque. Il évolue. Quand on voit des photos de lui jeune, dans une petite guinguette avec un verre de vin et son costume en velours, et à la fin, on voit une photo de ce bel homme en costume, on croirait un aristocrate, très riche en tout cas. En tout cas, il donne cette image. Oui, effectivement, c'est presque contradictoire. C'est absurde, mais c'était l'image qu'il voulait construire. Au final, je pense qu'il devient le masque qu'il porte. Ça, tu peux être vu comme un destructeur, comme un poète, comme un mélancolique qui ferme la porte du 19e siècle, qui ouvre la porte du 20e siècle. Il était à la fois communiste, rosicrucien, mystique, dadaïste, proche du chat noir, donc et aussi un peu musical. Donc c'est un peu compositeur près d'odécaphonique. Il a vraiment. Il y a différents registres de Satie, mais il n'y en a pas un qui prédomine.
Orphelin de beaucoup de choses. Il est orphelin musicalement. Il n'est pas dans une tradition. Il se réclame de qui il n'a pas eu de très grand maître. Au contraire, il s'est tout de suite situé dans une forme de, vous voyez, de rupture. Orphelin.
C'est quelqu'un qui a voulu toujours repenser les choses à partir de zéro.
Ornella Volta.
Je mets les choses acquises, même au tout début, quand il était encore, il ne connaissait à peu près rien, parce qu'il était un mauvais élève. Il avait été considéré l'élève le plus paresseux du conservatoire. Et là, tout de suite, il s'est mis à contester les conventions habituelles. C'est-à-dire qu'il était le premier compositeur qui a compris qu'il était la fin d'une époque. Les gens comme Boulez, qui était le premier de la classe, lui, comme ça, il a trouvé toujours un amateur méprisable et tout ça, parce qu'il ne respectait pas les conventions académiques. Mais justement, c'est qu'il n'intéressait pas, il cherchait quelque chose qui n'existait pas encore.
Ensuite, c'est un homme visiblement qui a eu des difficultés relationnelles, notamment avec les femmes. Bon, je pense que on a monté en épingle l'histoire avec Suzanne Valadon, elle n'est pas la seule, hein, semble-t-il. Bon, tout ça c'est assez mal terminé, et je pense que ça a contribué à beaucoup traumatiser Satie, qui n'était pas misogyne, mais disons qui était plutôt qui est devenu quelqu'un qui s'est mis un peu à l'écart. Ça a fait partie de sa mise à l'écart d'un système de vie normal, social, et donc qui lui a permis de jouer des rôles et d'avoir d'ailleurs le recul pour les jouer par le fait qu'il ne voulait pas en fait participer au jeu social. Mimait, il le singeait mieux que les autres.
Le 14 du mois de janvier de l'an de grâce de 1893, lequel était un samedi, commença ma liaison d'amour avec Suzanne Valadon, laquelle prit fin le mardi 20 du mois de juin de la même année. Le lundi 16 du mois de janvier 1893, mon amie Suzanne Valadon est venue me voir pour la première fois de sa vie en cet endroit, et aussi pour la dernière le samedi 17 de juin du même an.
Satie a été très, très traumatisé, il a été traumatisé par ses échecs. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance. Debussy, que Satie a beaucoup influencé, a essayé de l'aider, mais sans plus. Ravel s'est servi de Satie pour se démarquer de Debussy, etc., etc.
Il faut savoir que Satie, pendant les premiers 25 ans de sa vie, il était joué par personne. C'est lui-même qui jouait ses œuvres dans des cercles privés, dans des cabarets, dans des choses, mais jamais dans des salles de concert. Les premiers concerts, c'était quand Debussy a orchestré les Gynopédies en 97. Donc, il a entendu les Gynopédies orchestrées par Debussy quand même, pas joué au piano. Et après, c'est la première fois que sa musique était jouée à piano dans un concert, c'est par Ravel, 1910.
Satie, comme moi, sommes prisonniers d'une technique qui n'est pas aussi aboutie que celle de Ravel ou de Debussy ou de Messiaen ou de qui vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand vous êtes empêtré avec une musique qu'on vous présente, si on veut la composer comme une espèce de montagne inaccessible qui comprend l'harmonie, le contrepoint, la fugue, l'orchestration, etc., et qu'il n'y a pas d'expression possible autrement que dans la maîtrise absolue de toute cette science-là, ben, et que malgré tout vous possédez en vous, comme ça il avait, ben, le désir de parler par la musique, eh bien vous êtes naturellement obligé de questionner la musique différemment. Et c'est la raison pour laquelle moi Satie me semble, comme l'a dit d'ailleurs John Cage, un musicien indispensable et pas qu'un musicien important. Un musicien indispensable parce que oui, il questionne la musique de manière oblique, finalement se moque dans une certaine mesure des paramètres qui sont les paramètres que je citais tout à l'heure, pour vraiment éponger. Et comment dire, oui, c'est ça, oui, que je dirais pas éponger, mais essorer, en fait, les conceptions musicales et nous livrer, ben, l'œuvre la plus pure possible, avec le minimum de choses.
Tout le monde était wagnérien quand il a commencé. Et parce que Wagner avait dit que c'est la musique de l'avenir, et donc tout le monde faisait la musique de l'avenir. Et lui, alors, il a pensé, mais il faut faire plutôt la musique des origines. Mais lui, il a essayé d'imaginer quelque chose de dépouillé, le contraire des tempêtes altisonnantes de Wagner, mais quelque chose de plus simple, de dépouillé, d'élémentaire.
Cherche des références dans un passé très lointain comme ça, que ce soit le Moyen-Âge ou une sorte de Grèce antique imaginée dans les gymnopédies, et elle essaye de retrouver, enfin d'inventer une façon de composer dans ces pièces mystiques surtout, qui serait totalement neuve. Donc c'est à la fois un goût pour un certain archaïsme comme ça imaginaire, et en même temps une façon d'essayer de recréer la musique par ses propres moyens sans avoir recours au savoir-faire. Donc dans cette période qui va grosso modo des gymnopédies jusqu'aux danses de travers et aux airs à faire fuir, autrement dit aux pièces froides de 1897, ce qui caractérise l'écriture de Satie, d'abord c'est la lenteur du tempo, absolument systématique. On est toujours dans la lenteur, dans une sorte de forme de hiératisme comme ça, de noblesse, de tranquillité, d'équanimité. Ensuite, c'est la domination d'une forme d'écriture verticale, donc sous forme d'accords plaqués, très souvent, de paquets de notes comme ça qui se succèdent les uns aux autres, de fonctionner comme ça un petit peu par bloc, si vous voulez. C'est pas une chose dont Satie est l'inventeur, hein. On trouve ça dans les chorales, on trouve ça dans certains passages de à peu près n'importe quel compositeur, mais ce qu'il y a, c'est que c'est lui, c'est systématique à cette époque, c'est tous les morceaux, enfin presque tous les morceaux qui sont comme ça.
Donc c'est très fragmenté.
Oui, ou en tout cas un petit peu minéral, comme ça, un petit peu hiératique, un petit peu... peut-être d'aucuns pourraient dire lourd, vous hein, voyez. Et puis il y a des harmonies assez inouïes, quoi, des aventures harmoniques vraiment étranges, vraiment nouvelles quand même, très nouvelles pour cette époque. Dans Le Fils des Étoiles, il y a des successions d'accords, des sortes d'agrégats sonores qui sont d'une modernité quand même assez étonnante pour 1891. On est dans une espèce de dépouillement, de nudité comme ça, de retenue extrême.
Presque de vide par moment. Et ah le silence.
Par moments, oui, le silence joue un grand rôle dans la musique de cette époque. On a l'impression que c'est une musique un peu baignée de silence, même si elle n'a pas, comment dire, elle ne laisse pas apparaître une quantité de silence forcément extrême dans son déroulement. C'est-à-dire que les sons se succèdent quand même de manière assez soutenue, mais on a l'impression que la musique est entourée et baignée de silence, un peu comme l'est, comme l'était ou comme l'est le chant grégorien lorsqu'il résonne dans une église. Et on peut noter à ce titre que certaines partitions, beaucoup de partitions de cette époque-là, comme celle des danses gothiques encore une fois, ou celle des préludes du Nazaréen, sont écrites avec une grande raréfaction du signe sur la page. Sur la page, on a deux portées, quatre portées qui sont recouvertes de notes, et puis tout le reste de la page est laissé vide. Et parfois même, Satie, dans le sens de la lecture, laisse de grands vides, ou même opère des sauts, tout à fait inexplicables, d'un motif à l'autre.
Regardez, je vais vous sortir une partition absolument extraordinaire de
Elios Azoulay
dans mon recueil là, qui nous vient d'ailleurs d'un de ses plus beaux recueils, qui s'appelle Les Trois Valses distinguées du précieux dégoûté. Et la deuxième de ces trois valses s'appelle Son binocle. Et qu'est-ce qu'il vous met, Eric Satie? Comme indication, il vous met très lent, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il connaît les pianistes. Et vous dites, bon, je vous ai déjà dit lent et douloureux. Je vous ai déjà dit, mais non, très lent, s'il vous plaît, lentement, lentement, s'il vous plaît. Alors, je vais vous jouer un petit bout. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Il n'y a pas de barre de mesure. On est là aussi sur un rouleau de musique avec des petites indications comme son binocle. Très lent, s'il vous plaît.
Ralentir avec bonté. Continuer sans perdre connaissance. Devenez pâle. En blanc et immobile. Tomber jusqu'à l'affaiblissement.
C'est hyper simple, n'importe qui peut faire ça. Et le problème des pianistes, c'est quand ils vous font... Voyez-vous. Voyez ce que je veux dire? Bah oui, bah évidemment, ça va plus vite, etc. Mais vous voyez, moi je crois qu'il y a pour le coup quelque chose, ah ben bah peut-être oui, un peu d'extatique. Voilà, mais oui, on l'a...
Francis Poulenc.
Au plus fort du ravelisme, n'est-ce pas? Il a écrit un mot, qui a fait scandale à ce moment-là, parce qu'il était horriblement injuste pour Ravel à ce moment-là. Il a écrit à ce moment-là, Ravel refuse la Légion d'honneur, toute son œuvre l'accepte. Vous comprenez? Ce sont les violences d'abord de cette époque.
Où il a dit une phrase étonnante aussi, il a dit...
Jean Cocteau.
L'essentiel n'est pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas l'avoir mérité.
Oui, c'est très joli.
C'est tout Satie.
Oui, ça c'est exactement Satie.
C'est Satie, vous l'avez sous les yeux.
Le problème, c'est qu'il a ce côté bipolaire, j'aime pas ce terme-là, mais il possède à la fois le sens de l'humour et le sens du sacré. Et qu'il y a des gens pour qui c'est impensable. C'est pour ça, à un moment, qu'il rentre en crise avec l'Église catholique et son catholicisme et qu'il fonde sa propre Église. Il est dans une telle hyper-chrétienté, complètement hallucinée, hallucinante, qu'à un moment, il ne peut plus vivre et son humour délirant et sa foi réelle.
Il a fondé l'Église métropolitaine d'art de Jésus-Christ conducteur, qui était un mouvement tout à fait étonnant, parodique, dont il était le seul membre. Et du haut de son abbatiale, c'est-à-dire du haut de sa chambre... En haut de la butte Montmartre, il attaquait, il envoyait des lettres extrêmement violentes aux représentants de la vie artistique et culturelle à Paris. Et donc il s'est fait très attaquer en réponse à ça. Il passait soit pour un fantaisiste, soit pour un fou, ou alors pour quelqu'un qu'on devait abattre.
Étant très chrétiennement le parcier, l'épée bouillante, le pauvre, l'athlète, le moine, l'invisible, la fermeture et le chevalier.
Satie, lui, était en effet un prédadaïste en 1893, quand il avait créé l'Église métropolitaine d'art de Jésus-Christ conducteur. Si ce n'était pas un geste dadaïste, qu'est-ce que c'était ? Et donc il a toujours été dadaïste toute sa vie, il a toujours eu cette démarche métaphysique des dadaïstes, c'est-à-dire de ne pas prendre l'art au sérieux, l'esprit de sérieux, l'esprit pontifiant des grandes âmes creuses de l'art, ça il a toujours rejeté. Tous les dadaïstes ont rejoint Breton, sauf Satie, qui est lui, qui a des principes, il a toujours qualifié Breton, il est pré-surréaliste comme les faux dadas.
Le jour où Éric Satie bâtit un temple, 6 mois après, il le ferme et il veut que personne n'y rentre. Voilà. Donc oui, il a aussi ce vertige wagnérique, je dirais même pas wagnérien. Il a aussi ce vertige wagnérique qu'il partage un moment avec Péladan. Mais il n'est pas aussi idiot que Péladan. Il a compris que là-dedans, qu'à partir d'une certaine démesure, on porte en soi sa propre parodie.
David Christoffel.
Quand on regarde cette période mystique, elle est contemporaine d'un autre Satie qui est le Satie qui fréquente le cabaret, le Chat Noir et tout ça. Donc moi, je pense que il y a la place dans la personnalité de quelqu'un comme Éric Satie d'avoir une double sincérité. Et ça me paraît pas grave que on ait des sincérités contradictoires en soi.
La grenouille d'une de tonneau s'ennuie le soir sous la tonnelle. Elle en a assez d'être la statue qui va prononcer un grand mot, le mot. Elle aimerait mieux être avec les autres qui font des bulles de musique. Avec le savon de la lune, au bord du lavoir mordoré, qu'on voit là-bas luire entre les branches. On lui lance à cœur de journée une peinture de pistolet. Il la traverse sans lui profiter. Et s'en vont sonner dans les cabinets de son piédestal numéroté. Et le soir, les insectes couchent dans sa bouche.
Jean-Pierre Armengaud.
La période mystique, entre guillemets, de Satie, est probablement, fait partie de ce qu'il y a de plus obscur, vous voyez, dans l'attitude de Satie. Bon, j'ai l'intuition que il a failli se perdre lui-même. C'est-à-dire que il était dans une période de, où il a été obligé de déménager de Montmartre à Arcueil, était dans une pauvreté voilà absolue, rien ne démarrait. Bon, il avait beau avoir rencontré Debussy à l'Auberge du Clou et à conseiller Debussy sur ce qu'il fallait faire, car Debussy lui doit beaucoup, vous le savez. Bon, il était dans une obscurité totale et il s'était fâché avec presque toutes les institutions. Bon, et donc ce retour, cet engagement, c'était pour faire une ultime expérience dans une période que moi je qualifie de période un peu de dépression. Il s'est retrouvé il s'attendait pas à ce qu'il allait y trouver. Il s'est retrouvé dans cette chambre d'Arcueil assez misérable, à jouer à des petits jeux d'alchimie, vous savez, avec tous ces cartons fantasmatiques. Je crois qu'il faisait beaucoup de cauchemars. Et bon, ces œuvres de cette époque s'en ressentent. Ceci dit, et c'est le paradoxe des choses, c'est dans ces œuvres mystiques, par exemple les sonneries de la Rose-Croix, qui est purement un accompagnement de cérémonie, n'est-ce pas? Bon, donc avec un certain assez mécanique, bon, ou bien dans les pièces gothiques, qui sont des petites scénettes comme inachevées, avec des trous et des silences. Bon, c'est dans ces œuvres-là que Satie a fait ses expérimentations musicales et qu'il a s'est construit ce langage qui est un langage d'harmonie très chromatique. Je voudrais pas employer des mots trop de notre métier, n'est-ce pas, de chromatique, des enchaînements d'intervalles, inventer des progressions d'échelles musicales, de positionnement d'intervalles qui font le style, oui, de Satie, et qu'on retrouve encore une unité après dans toutes ses œuvres.
On ne goûte pas assez l'état de pauvreté, et c'est signe des plus graves désordres. La pauvreté vient de Dieu, et on ne saurait y renoncer sans lui désobéir. Quant à ceux qui osent plaindre l'infortune et ne craignent pas de la soulager, ce sont des ferments de corruption. Ils tendent à détruire les inégalités qui assurent l'équilibre du monde et préparent les pires cataclysmes.
Et le fait qu'il se soit présenté, que Satie se soit présenté 3 fois à l'Académie des Beaux-Arts, qu'est-ce que cela vous inspire, Élie Sazoulay ?
Vous savez, on peut être révolté et en même temps penser qu'on a précisément sa place dans les instances les plus hautes. Et je crois que quand on est jeune, moi je le sens jeune, parce que là il est jeune quand il fait ça, il a 20 ans, 25 ans, etc. Il envoie des lettres d'insultes à 500, à tout le monde, etc. Bon, quand il est aussi jeune et qu'il possède, oui, cet rage, mais c'est... Oh, vous savez, il y a à la fois la rage chez Satie, c'est-à-dire la colère, le souci de pureté, je dirais même une espèce de d'ange purificateur, n'est-ce pas? Mais un homme comme Satie, qui à la fois est un révolté, un solitaire et un pur, c'est normal qu'à un moment il se rêve à l'Académie. Mais il sait très bien qu'il ne sera pas nommé à l'Académie, et c'est ça qui est super beau et qui est super drôle surtout.
Quand on lit les lettres de candidature qu'il adresse successivement au conservatoire de Paris, il est quand même empreint d'un vocabulaire qui laisse penser qu'il n'a pas complètement renoncé au sublime. En fait, ce qu'on prend pour de la parodie, c'est le fait d'une hyper-moralité, mais qu'il poussait très loin par une exigence qui, elle, a quelque chose d'absolutiste en quelque sorte. Ah voilà. Alors c'est une des 3 lettres que j'ai sous les yeux, c'est celle de 1894, donc il écrit à l'Académie des Beaux-Arts. Très honoré maître, l'Académie des Beaux-Arts vient de statuer sur la vacance du siège du très regretté maître Charles Gounod. J'ai l'honneur de vous demander de faire part à l'illustre compagnie de mon désir d'être compté parmi les candidats à cette vacance. Mon art, fleur de l'école dont je suis le pieux initiateur, m'impose le devoir, avec l'assentiment de Dieu, de me présenter au fauteuil du très vénéré maître trop tôt disparu de l'auguste assemblée.
C'est le style qui est tout de même étonnant.
Bah le style essaye de peut-être se mettre à la hauteur de l'impossibilité de la chose. Mais moi, je pense que quand il dit que son art, fleur de l'école dont il est le pieux inspirateur, lui impose le devoir de se présenter à ce fauteuil, c'est littéral. Là, pour le coup, il n'y a pas d'ironie. Effectivement, il a le devoir, de par la fleur de l'école dont témoigne sa musique, de se présenter. Ça me fait rire parce que c'est évident, enfin, et que c'est un rire tragique de voir que cette évidence ne puisse pas s'entendre.
Il est avant tout le musicien des idées, mais c'est aussi un très grand philosophe. C'est ce que méconnaissent à peu près totalement les musicologues modernes. Mais ce qui est admirable, mon cher, absolument admirable, c'est que cet homme était la modestie même, le plus civil, le moins esthète, le moins intellectuel qui soit.
C'est tellement facile d'avoir l'air intelligent, c'est tellement profond d'être drôle.
Gilbert Delors.
Satie développe une pensée par assemblage. Donc, il compose des motifs isolément les uns des autres. Et ensuite, il écrit la pièce en assemblant ces motifs dans un ordre qu'il choisit au fur et à mesure. C'est un peu comme du patchwork, quoi. Et puis, comment dire, on est tout le temps dans le concret, quoi. Chaque motif a une densité et une importance rhétorique aussi grande que le précédent ou le suivant.
Est-ce cela qui crée ce climat sonore très particulier, ce côté lancinant,
ah oui, parce
un
que,
peu zen de Satie?
Oui, parce qu'il y a la répétitivité en plus. La lenteur associée à la répétitivité. Parce que dans ce travail d'agencement des motifs, le même motif peut revenir plusieurs fois, éventuellement beaucoup de fois. Donc au bout d'un moment, même si l'ordre des motifs est toujours différent, toujours changeant, on finit par se rendre compte que ce sont un peu toujours les mêmes motifs qui reviennent, et ça crée un effet de répétitivité très fort. Et bien sûr, on ne peut pas, à cet égard, ne pas mentionner les Vexations, qui sont une œuvre de 1893, une page de musique d'à peu près une minute, ça dépend à quel tempo on la joue, mais disons d'à peu près une minute, dont le compositeur indique qu'il s'agit de la répéter 840 fois. Donc là,
est-ce possible?
On n'a jamais fait plus au point de vue de la répétitivité. Parce que la plupart du temps, quand on exécute les Vexations, depuis la première fois où ça a été fait à l'initiative de John Cage en 1963 à New York, donc la plupart du temps, quand on exécute les Vexations, on prévoit plusieurs pianistes qui se relaient. Parce que l'exécution peut prendre... Alors, encore une fois, ça dépend du tempo, ça dépend d'un certain nombre de choix qu'on fait, entre 12 heures et 24 heures, ou plus même. Mais il existe quelques pianistes fous qui ont réalisé les choses tout seuls.
On a pu penser que Satie était ésotérique. Et vous-même, Ornella Volta, vous avez analysé certaines de ses œuvres comme étant cryptées à partir de chiffres, notamment le 3, le 7. Alors, on a même pensé qu'il avait des pratiques alchimistes.
Non, je ne pense pas qu'il avait des pratiques alchimistes, mais enfin, il s'intéressait à la numérologie, la preuve que la fameuse Vexation, dont il n'avait jamais parlé à personne, mais qui était découvert récemment, enfin, il y a quelques années seulement, on a découvert pourquoi 840, parce qu'il y a la chose de Luca et de Fibonacci, vous savez, la suite des Lucas, si vous voulez. C'est la somme des nombres qui amène au nombre d'or, parce que, vous savez, la suite des Lucas, c'est chaque numéro, c'est la somme des deux précédents. Et donc, quand on voit le premier 12 numéros, on arrive au nombre d'or. Et quand vous comptez chaque nombre qui est la somme, tout ça, la somme est 840.
Dans Vexation, quand on l'écoute vraiment, l'œuvre commence à prendre des formes différentes. On se concentre forcément au début sur les premiers accords. Ce sont ceux qu'on entend toujours se revenir. Et après, on se concentre peut-être plus sur l'enchaînement complet. Et on entend une œuvre plus longue apparaître. Et après, on n'arrive plus à distinguer où est le début et où est la fin. Et du coup, après, l'œuvre prend toute une autre forme et au final on se retrouve à écouter à la fois chaque note, chaque accord, mais après on dans notre tête on entend un cycle beaucoup plus long que les je sais pas combien d'accords. C'est tout petit, ça prend 12 secondes à jouer, mais au final on a l'impression que c'est une longue mélodie de plusieurs mesures, et on perd nos repères, en fait. Mais c'est hypnotisant. C'est du minimalisme pur. C'est l'idée même du minimalisme, mais c'est... Au final, ça prend une ampleur immense, je trouve. Au-delà de la beauté musicale, ça a un vrai impact physique sur la concentration. C'est pas de l'ennui, mais ça... On en sort, on rentre de nouveau dans la musique, on perd un moment nos repères. Et là aussi, c'est les graines, les racines de la musique qui allait suivre. Toute la musique de Steve Reich, de Philip Glass, de Terry Riley. Tout ça, c'est sans Satie. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas Steve Reich, mais en tout cas, Satie n'y est pas pour rien.
Satie est une œuvre limite. Il y en a une qui est encore plus limite, c'est la musique d'ameublement. Bon, la musique d'ameublement, mais c'est pas une musique, c'est un état d'être musical.
Il fait justement des espèces de rengaines comme ça, qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent sempiternellement. Où l'idée de décoration musicale est prise au sérieux d'une certaine façon, puisque de la même façon que les motifs d'un papier peint se répètent sur les murs d'une pièce, eh bien le motif musical, là aussi, se répète, ne fait que se répéter. C'est-à-dire on remplit le temps, au lieu de remplir l'espace comme sur les murs, on remplit le temps avec un motif répété.
Par pitié pour les ivrognes, honteux, débauchés, imparfaits, désagréables et faussaires en tout genre.
Éric Satie récupère une chambre à Arcueil qui avait appartenu à un clochard céleste, ami de Verlaine d'ailleurs, qui s'appelait Bibi la Purée. Qu'on appelait Bibi la Purée. Et qui reste dans l'histoire sous ce nom-là. Et c'est une très modeste chambre, dérisoire, entre dans lequel il va vivre jusqu'à sa mort sans avoir jamais accueilli personne.
Jean Viener.
Quand Satie a été mort, nous avons découvert des choses tout à fait extraordinaires chez lui. D'abord, il habitait une maison de pauvres, mais on ne peut pas imaginer une chose comme ça en banlieue. Vous savez, la maison de coin qui se trouve dans un terrain vague, on ne sait pas pourquoi elle est là. Une maison avec la porte défoncée, donc pas de porte d'entrée. Le petit endroit, si j'ose m'exprimer ainsi, au milieu de l'escalier, ouvert à tout vent, vous savez. Vraiment une maison misérable. Et nous n'avions jamais pu savoir où il habitait. Et quand il a été habitué à la vie mondaine, Le directeur du magasin Old England lui a fait faire un smoking pour qu'il puisse dignement aller chez les duchesses et chez les Rothschild et tout ça. Quand il a reçu ce smoking, il l'a endossé. À 7h ou 8h du matin, il a commencé à aller chez les troquets du coin en smoking.
À l'âge de 7 ans, je meurais 22 rue Cauchy avec Monsieur Satie.
Amélie Bidot.
Avec mes parents. Alors je le voyais sortir de chez lui, souvent, avec son bro, il allait chercher son eau, et il chantonnait tout le long du couloir. Et alors, il nous disait bonjour à tous les enfants, puisque on était beaucoup dans la maison. Et alors, il allait chercher son eau dans la cour, puisqu'il n'y avait pas d'eau dans la maison, ni électricité. Et il allait chercher son linge chez le blanchisseur. Il était toujours bien habillé, avec un costume bleu marine, et puis un beau faux col.
La vie de Satie est tout de même marquée par la pauvreté dont vous dites Jean-Pierre Armengaud, dont il a fait une morale esthétique.
Voilà, alors c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'au lieu de rester dans le déni, on aurait pu dire se recroqueviller et j'allais dire bon, mourir à petit feu, il en a fait une force de création et de créativité. Bon, mais ça fait penser aussi, au personnage du Christ.
Vous parlez de sa pauvreté monastique.
Voilà. Alors, pauvreté monastique, il en a fait une force, et je veux dire créatrice et compositionnelle. Et en réfléchissant avec le recul, c'est au fond, il nous propose au fond un modèle de composition, j'allais dire, vous savez, on dirait aujourd'hui durable, vous savez, un peu écologique. C'est-à-dire, pourquoi prendre faire des symphonies qui durent 4 heures, des opéras comme Wagner qui durent 4 heures avec autant de musiciens. Non, réduisons la voilure. Et cette pauvreté, nous fait retrouver l'essentiel. C'est à partir de là qu'on pourra reconstruire la musique.
J'entends toujours ce qu'il m'a dit sur son lit d'hôpital quelques jours avant de mourir, non sans une certaine fierté, fierté si juste de la part d'un homme qui était aussi modeste. Eh bien, il me disait « Je ne regrette rien, je n'ai jamais écrit une note qui n'ait sa valeur, son sens, vous entendez ?» Eh bien oui, Satie était une sorte d'ascète esthétiquement parlant.
1898, au moment où il déménage à Arcueil, là il y a une rupture totale. Oui. À partir de là, son langage musical est entièrement nourri de façon importante par les idiomes de la musique populaire de son temps.
Qu'il détourne.
Ce sont les danses, les quadrilles, les chansons que l'on entend et que l'on joue dans les cafconces, dans les cabarets de son temps.
Ça peut être aussi des juxtapositions de styles. Par exemple, dans les morceaux en forme de poire. Je pense personnellement que les morceaux en forme de poire sont peut-être une des meilleures œuvres de Satie, mais parce que on retrouve un petit peu tous les styles de Satie. Le style gymnopédie, le style mystique, le style grave, un peu contrapuntique, qu'on trouvera après dans Parade, par exemple. On retrouve déjà le style un peu jazzy des années 30, moitié foxtrot, cakewalk, etc. On retrouve ce côté cyclique qui annonce déjà ses études, j'allais dire en formation continue à la Schola Cantorum. Bon, c'est une œuvre de synthèse, mais qui n'est pas une synthèse concentrée. C'est plutôt du juxtaposé. Pour connaître cette œuvre de Satie, pour réveiller le bon roi des singes. Voilà, pour nous réveiller. Voilà, c'est ça Satie. Il nous raconte des petites histoires, métaphoriques, bien sûr.
Sur du velours jauni.
Chanson canine. C'est un binocle d'argent avec des verres en or fumé. Comme un rossignol qui a mal aux dents.
Une partie du trouble que crée Sati et qui n'appartient qu'à lui est aussi due, très largement, hormis sa prétendue simplicité, aux indications qu'il met au-dessus de la partition, et notamment dans les gnosiens. Vous savez, ouvrez la tête, seul pendant un instant, etc. C'est...
Les crapauds s'appellent par leur nom propre. Être visible, un moment. Soyez convenable, un singe vous regarde. Sec comme un coucou.
David Christoffel.
Au début de son œuvre, dans les années, à la fin des années 1880, au début des années 1890, donc au moment des gnosiennes, des gymnopédies, là, il pratique beaucoup le conseil moral, comme donc ouvrez la tête ou bien munissez-vous de clairvoyance, qui sont des adresses aussi bien à l'interprète, peut-on supposer, que pourquoi pas au lecteur, puisque ça correspond exactement à l'époque où le Figaro musical publiait chaque dimanche des partitions, dont ces gnosiennes, et c'est à ce moment-là qu'il commence à mettre des indications. Donc il ne s'agit pas de s'adresser seulement au pianiste. Et puis, ces mentions verbales ne sont plus seulement des indications de jeu beaucoup plus tard, dans le début des années 1910, quand il compose des partitions comme Sport et divertissement pour les plus connus, ou bien Descriptions automatiques. Là, ce sont vraiment comme des petits panneaux narratifs, on ne peut plus parler d'indications de jeu, et il commence à avoir des fragments de narration qui vont se distribuer en contrepoint avec la petite narration musicale qui a l'air de se faire en même temps.
C'est-à-dire que ces petites narrations écrites viennent contredire ou subvertir l'écriture musicale.
Ça vient dire que la musique ne peut pas tout, et c'est toujours dans cette espèce de confrontation à un impossible artistique, peut-être que il construit un décalage entre ce qu'il met dans les textes et ce qu'il met dans la musique, mais c'est un décalage contrôlé, si je pourrais dire, au sens où il travaille les deux à la fois et qu'il conçoit l'espace dans ces moments-là, c'est-à-dire dans les années 1912, 14, 15, il conçoit l'espace de la partition comme un espace poétique.
À propos de parade, Jean Cocteau.
Vous savez que le tout a fini au Châtelet par un effroyable scandale. On voulait nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons été sauvés par Apollinaire parce qu'il avait la tête bandée, il était en uniforme et on le respectait. Il se mettait comme devant nous comme un rempart. Mais nous avons entendu, Picasso et moi, un monsieur qui disait à un autre « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants ».
Florestan Azoulay.
Moi, je trouve que pour Parade, on n'a pas besoin d'un simple orchestre, parce que dedans, il faut des armes à feu, il faut des machines à rire. Ça, c'est une chose que j'adore avec Satie, dans ses musiques, il ne prend pas tout le temps le piano, le violon et tout. Lui, il prend souvent des choses originales, par exemple la machine à rire, les pistolets. Voilà, pour moi, c'est hyper beau.
Des dernières œuvres de Satie, c'est le ballet Mercure, conçu dans des décors de Picasso, le deuxième ballet dans des décors de Picasso après Parade, et en fait qui est une commande de son mécène, le comte Étienne de Beaumont, et c'est un ballet qui est en fait fait d'une succession de poses plastiques. Là aussi, problème de forme, vous voyez, inventer une forme. Les dernières œuvres de Satie supprime la narrativité de plus en plus rationnelle au profit de l'image sonore. Au fond, comme si c'était le corps qui dictait à l'esprit ce qu'il avait envie de dire Bon, et il relâche, alors là, qui est un ballet encore plus iconoclaste, puisque vous savez que ça commençait par des projecteurs qui étaient dirigés vers le public, et donc qui l'aveuglaient. Donc en fait, c'est une forme d'annihiler toute forme d'art. En quelque sorte, c'est ça qui va vers le rien, vers le surréalisme et l'écriture automatique.
Jean-Pierre Armengaud au piano.
L'ouverture de Mercure, alors c'est une musique instantanéiste. Bon, c'est assez brutale, qui est à l'évidence inspirée aussi par les musiques, on disait les musiques nègres, hein, les musiques de jazz, c'est comme ça qu'on disait dans ces années-là, et donc qui apparaît sans finesse, et pourtant, par son immédiateté, à quelque chose qui touche quelques rythmes fondamentaux qu'on porte en soi. Qui existe, puisqu'il est encore craint, fustigé, Satie reste sulfureux.
Éric Satie, comme un rossignol qui a mal aux dents, par Françoise Esteb. Avec Jean-Pierre Armengaud, Florestan Azoulay, Elios Azoulay, David Christoffel, Gilbert Delors, Romaric Gergorin, Léopold Tobiche, Ornella Volta. Voix, Thierry Beauchamp, Daniel Prévost. Archive INA. Prise de son, Fabien Gosset, Hélène Langlois. Mixage Claude Niort. Réalisation Lionel Quentin.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, ce sera le temps des écrivains. Et samedi prochain à 16h, Une vie, une œuvre est consacrée à Camille Claudel.